40% des gens nous ont demandé du sans alcool. C'était la première fois que je voyais vraiment un truc en me disant, mais putain, tu sais, d'habitude, tu prépares un événement, tu te dis, bon, ok, il y a 300 personnes, tu te dis, ok, il y a 200 personnes qui vont prendre un drink. Sur ça, il y a 15%, 30%, 15-20% de gens qui vont prendre du sans alcool. Mais alors, une proportion aussi élevée de sans alcool dans un crowd de professionnels en plus? Incroyable.
C'était tôt aussi, hein. C'était à 5 heures.
Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Est-ce qu'il faut beaucoup boire ou est-ce qu'on boit beaucoup quand on est... barman, mixologue.
Bah, ça a changé là, je te dirais. Tu sais, moi j'ai une consommation d'alcool qui est extrêmement modérée. J'ai même eu arrêté de boire pendant une grosse période de temps.
Si, t'es à l'aise.
Oh, parce que j'ai frappé le mur là à un moment donné. Je buvais, j'ai toujours eu un alcool social. Puis à un moment donné, mon corps, ma tête et mes.
Parce que tu bois quand tu travailles, évidemment.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, au début, c'était quelque chose de très social, plus comme un client. Ensuite, c'est devenu genre. Ok, moi je fais des drinks, puis je goûte des spiritueux tout le temps. Puis c'était quelque chose que genre, c'était, il y avait des journées de travail où on finissait, il était à 5 heures, puis on était genre semi-chaud parce qu'on avait goûté plein de cocktails parce qu'on avait besoin de faire des, je sais pas, tester des recettes pour des events, faire du contenu pour les médias, ce genre de choses. C'est plutôt en sortant du bar que ma consommation, justement, tu sais, vu que je me suis retrouvé avec un travail journalier. De médias, de communicants, etc. D'un coup, c'était ok, on boit la journée pour goûter des trucs. Puis à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter parce que ça ne marchait plus. La recette ne marchait plus.
Mais surtout que tu nous disais que tu avais commencé à 16 ans et quelque chose me dit que tu as commencé à boire aussi à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Mais en fait, comme tout le monde,
c'est parti dans le truc social.
Exactement. Mais puis. J'ai envie de te dire que c'est pas pour me dédouaner, mais comme tout le monde, quoi. Tout le monde, ouais. Au début, c'est tu bois un petit verre, c'est cool. Tu sais, je veux dire, quand je rentre en France, pendant la période où je buvais plus du tout d'alcool, putain, mais c'est dur, quoi. Les mecs qui sont là, ils te disent, mais c'est la honte, quoi. Tu vois, c'était. Mais même des gens de service, tu vois, qui te connaissent pas, disent, tu sais, je suis allé boire un verre dans le centre-ville de Marseille avec une amie. Elle prend un verre de rosé. Moi, je demande, tu sais, en fait, en plus, dans ce temps-là, c'était 2020-2021. Je leur dis, ouais, qu'est-ce que vous avez sans alcool? C'est plus en gros.
Un coke.
Bon, ils avaient genre une tourtelle ou un truc comme ça, mais tu sais, le mec, il arrive, il me sert dans un verre normal, il me dit, est-ce que vous voulez que j'enlève la bouteille de la table? En mode, tu sais, ça craint. bouteille de tourtelle sur la table.
C'est des bières sans alcool.
Ouais, c'est des bières sans alcool. Et tu vois, et aussi, même mes potes, tu vois, des gens ultra bienveillants qui te disent, putain, t'as arrêté de boire, super, ouais, vraiment, on est vraiment fiers de toi. Puis après, quand tu te retrouves tout seul avec lui, il est comme, ah ça va, maintenant qu'on est tous les deux, on va bien voir, tu vas bien boire un verre avec moi.
Tu vois, c'est fou. Tu bois pas avec moi.
Tu vois, c'est fou parce que au Québec, c'est un peu comme la clope, quoi. Tu dis, tu bois pas. Les gens, ils te demandent pas, tu vois. T'as quand même une espèce de barrière où les gens, ils s'en foutent, quoi. Tu vois, alors qu'en France, c'est tellement ancré dans la culture du partage, tu vois. Tu sais, je trouve qu'au Québec, la consommation d'alcool, c'est vraiment une question de consommation, tandis qu'on dirait qu'en France, si tu bois pas un coup, tu peux pas être dans la discussion, quoi.
T'es un peu exclu, mais comme la clope, quand tu travailles en resto, tu prends une pause pour prendre la clope, et puis si tu fumes pas, bah tu prends pas de pause, et puis t'es moins intégré dans le groupe.
Putain, moi je suis pas bon avec ça. Si tu fumes avec moi dans l'équipe et que tu prends des pauses clope, je vais pas t'aimer.
Ah bah travaille pas en cuisine alors.
Ah ouais, je sais, c'est les doigts qui sentent la clope, des choses comme ça. En principe, c'est rare quand même maintenant. Au Québec, il y a plus de gens qui fument.
En cuisine?
Ouais, non, en cuisine, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas traîné dans une cuisine, mais.
Comment, quand on ne boit pas d'alcool, là, comment on exerce son métier de mixologue, consultant en mixologie?
Oh, je goûte. Je goûte. Ouais. Ouais, non, j'ai pas de trigger, là, tu sais, j'ai pas de, comment dire.
Une petite goutte sur la dent.
Ouais, je goûte. Alors, sans goûter, franchement, j'aurais du mal à. Je sais qu'il y en a qui le font. Chapeau.
Et puis,
sois sûr de toi, hein, putain.
Puis là, tu nous as préparé un super cocktail sans alcool. Là, c'est super. Il y a vraiment une texture, il y a vraiment du goût. C'est très cool. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cocktail en particulier et puis de l'offre de sans alcool qui a explosé depuis 3-4 ans?
Alors, j'ai mis du Seedlip. Donc, le Seedlip, c'est le leader mondial des spiritueux sans alcool sur le marché. Mm-hmm. C'est les premiers. En fait, ils ont inventé la catégorie. Badass quand même.
Quand même.
Ouais. Ils ont été copiés, mais tu sais, c'est super bon. Puis je l'ai rallongé avec du fin soda. Ça, c'est encore plus cool que Seedlip. C'est des canettes qui sont faites à Verdun, juste à côté de chez nous, dans l'ancien local de la distillerie 1769. Par Pierre-Hugues Marois et Mélanie Homé. C'est trop bon, ils sont en train d'être diffusés dans de plus en plus d'endroits. Et en fait, c'est des cannes qui sont faites par des anciens mixos, là, avec vraiment de l'expertise, avec un palais super affûté. Puis en fait, ils utilisent des jus frais et c'est délicieux. Et en fait, tous les gens qui goûtent, ils adhèrent et c'est une vraie canne premium sans alcool que tu peux boire comme ça. Puis en plus de ça, ils sont en train de se diffuser à fond parce que tout le monde les adore et ils sont super cool. Donc,
ils ont une grosse vague de sans alcool.
Ouais, écoute, c'était hallucinant quand on a fait le service pour les lauriers. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros service dans un crowd. Là.
C'est là qu'on s'est rencontrés à la conférence de presse de l'annonce des nominés pour les lauriers.
Le gala des lauriers.
Dont tu fais partie. Bravo.
Ouais, merci.
Catégorie mixologue de l'année.
Je suis très fier, je travaille très fort pour ça. Mm. 40% des gens nous ont demandé du sans alcool. C'était la première fois que je voyais vraiment un truc en me disant, mais putain, tu sais, d'habitude, tu prépares un événement, tu te dis, bon, ok, il y a 300 personnes, tu te dis, ok, il y a 200 personnes qui vont prendre un drink, c'est juste un, il y en a peut-être deux autres, tu sais, il y a un autre petit pourcentage qui vont vouloir en prendre un deuxième. Sur ça, il y a 15%, 30%, c'est 15-20% de gens qui vont prendre du sans-alcool, mais alors une proportion aussi élevée de sans-alcool dans un crowd de professionnels en plus, incroyable.
C'était tôt aussi, hein. C'était à 5h.
Ouais, mais non, mais le temps que ça commence, c'est 6h30.
J'en ai vu des animaux, là, je te dis. Ouais. C'est pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est la proportion, tu sais. En plus, ce qu'on a fait, c'est que, tu sais, moi, je servais le cocktail de Julien Vézina, qui avait été le gagnant des lauriers de l'année dernière. Vu qu'on utilisait les produits Hubal, j'étais comme, regarde, check, te tape pas la route, là. Je vais venir faire tes drinks, c'est facile, il n'y a pas de stress. Puis en fait, on avait fait, avec Jean-Sébastien, on s'était arrangé pour moduler la même identité de drink, entre guillemets, sans alcool. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut le manipuler, le sans alcool, tu vois. Il faut que ça ait l'air d'un drink avec de l'alcool. Parce qu'en fait, si tu veux, autant dans l'alcool, il y a un côté festif, comment dire. Le sans alcool, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est vraiment le langage. Et la communication qu'il y a autour, parce que pour la plupart du temps, en fait, il y a quelques années, l'offre était tellement basse que, en fait, si dans ton bar, tu avais une offre sans alcool qui tenait la route, ben, en fait, il y avait une certaine partie de la population, entre guillemets, si on peut dire ça, que tu vas apporter dans un bar, en fait, qui ne sortent pas dans des bars. Il y a des gens qui ne vont pas dans des bars parce qu'ils ne boivent pas d'alcool et que jusqu'à 2019, quand tu ne buvais pas, tu avais soit un jus de pomme, soit un coca. En fait, tu avais la même consommation qu'un enfant, quoi. Et ce truc-là a changé, c'est bien. Et le marché, il est... Franchement, je te dis, moi, j'ai travaillé pour Seedlip. J'ai adoré travailler pour eux. Et après la vague de la pandémie, quand c'est tombé, je me suis dit, ça va se stabiliser, tu vois. Eh ben, pas du tout. Ça a continué à évoluer, ça a continué à grossir.
Malgré une certaine réticence des professionnels et de l'industrie, non ?
Ouais, mais clairement, c'est parce que ça a été une tendance de consommation qui a été installée par les consommateurs parce que ça a explosé au moment où tous les bars et les restos étaient fermés. Donc c'est clair que c'est quelque chose que, en fait, quand ils ont réouvert les bars, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de réticence. Parce que c'est normal, tu vois, même les consommateurs qui boivent au début avaient du mal à voir le lien entre le sans-alcool et la valeur, de te dire que tu vas payer pour un cocktail travaillé, un cocktail sans-alcool travaillé, mais tu vas quand même payer 12 balles. Pour eux, pas d'alcool, faut que ce soit moins cher, obligatoirement, tu sais, alors qu'en fait, dire dans une bouteille de Seedlip, même dans une bouteille de gin, tu payes pas la fermentation, tu payes le packaging, le marketing, le staff, le truc, c'est ça qui coûte.
Les taxes.
Oui, voilà. Donc c'est pas tu as cette espèce de ce qu'on est en train de perdre en ce moment, c'est le lien automatique que se font les consommateurs entre présence d'alcool versus il y a un prix qui ressemblerait à un prix d'un cocktail avec de l'alcool. Et c'est très bien, en fait, parce qu'au final, pour les gens qui, enfin, ça a la même valeur, tu as le même service, le même loyer, la même qualité dans les drinks, la même verrerie, la même glace, c'est la même chose.
Mais c'est super compliqué. Moi, personnellement, quand je vais dans un bar et que je veux prendre sans alcool, quand je vois 17$, je dis, attends, c'est quoi ce délire ? Alors, le prix d'une bouteille sans alcool est aussi cher qu'un prix alcool.
Ouais.
Et ça, tu l'expliques, tu dis, de toute façon, c'est le même prix, quoi qu'il arrive. Quand c'est le même prix de fabrication, tout est dans le marketing.
Bah, je veux dire, quand tu achètes une bouteille de Oval, je veux dire, c'est pas le liquide qui coûte cher. Hein.
Ah oui.
Bah, je sais pas, non, en plus, je dis Oval, mais je veux dire, à la limite, c'est voilà, dans une bouteille de. Une bouteille d'alcool, une bouteille de. Tu sais, nous, c'est qu'est-ce qui coûte, c'est les bouteilles, c'est le staff, c'est la production, c'est le loyer, c'est les choses comme ça, c'est pas le liquide itself. À part dans des. C'est dans des alcools, tu prends des alcools vieillis par exemple, tu vois, il y a toujours une corrélation entre un spiritueux qui est vieilli et le prix de sa bouteille. Bah, qu'est-ce que tu payes en fait? Tu payes l'espace du baril qui va rester là pendant 15 ans. Et en gros, tu payes la location de cet espace-là qui va ne pas être loué à un autre spiritueux qui va être vieilli. Donc à la limite, tu te dis, ok, tu vois, mais tu as certains. Moi, des fois, quand je vois, je sais pas, des bouteilles de gin qui sont à 70$, je suis comme, mais tu sais. C'est quoi ce 70? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans là, vraiment là, tu sais, genre pour que ça coûte aussi cher? Je sais pas, je sais pas.
J'ai l'impression que t'as ton avis mais que tu veux pas le dire.
Bah, c'est parce qu'en fait, il y a un de mes potes qui s'appelle Lucas qui est pas de mon avis et je respecte beaucoup son opinion, donc je me dis, ah, j'ai peut-être tort, c'est genre je demande qu'à changer d'avis, mais ouais, c'est ça, tu me fais payer 70 balles en disant, ouais, il y a des ingrédients japonais dedans, etc. Ouais, je suis pas sûr, moi, en fait, c'est parce qu'on a une vision différente. Moi, je fais des cocktails, donc pour moi, les bouteilles d'alcool, c'est des outils. Donc si je paye 70 balles pour une bouteille d'alcool, je vais pas me faire un cocktail avec. Ou alors ça va être un truc très simple, mais je sais pas. Tu sais, c'est en tout cas, tu sais, pour revenir sur l'histoire du sans alcool, mais tu sais, on s'en fout qu'une bouteille de Seedlip ça coûte 46$. Tu vas dans un bar, tu vas pour passer un moment. Si tu sors en te disant, oh, je suis pas prêt à payer 17 balles pour un cocktail, sors pas.
Bah oui.
Sors pas, va pas là. Non, mais je veux dire,
d'ailleurs,
c'est,
je respecte tout à fait. C'est
ça. Mais moi non plus, je suis pas tant un consommateur que ça. Moi, je préfère être de l'autre côté de la barrière. Mais je veux dire, mais non, tu payes. Tu vas au Nakarat, tu payes, je sais pas moi, 16 balles pour un cocktail sans alcool. Tu payes parce qu'il y a Claudia Doyon, parce que t'as de la verrerie de fou, parce que le mec, tu le vois travailler derrière le bar, c'est incroyable. Parce que l'hôtel il est beau, enfin je dirais, je peux continuer pendant 10 minutes. Hein.
Tu payes pour l'expérience,
voilà.
Principalement le moment que tu passes avec tes amis ou à l'endroit, tu payes pour, voilà, pour passer un bon moment.
Mais tu vas au Mousseau, tu sais que ça va te coûter un certain prix.
Mais
voilà, sinon tu vas pas.
Ouais. Et alors, le sans alcool, j'y connais pas trop, mais je sais qu'il y en a qui désalcoolisent.
Ouais, ça c'est zone grise un petit peu.
Ah.
Ces zones grises, il y a eu beaucoup de, tu sais, c'est dur à prouver, parce que en fait, tu sais, il y aura pas un documentaire ouvert sur YouTube avec genre voici comment on fait et tout, etc. Après, ce qui s'est passé, c'est que quand Seedlip a explosé après la pandémie et que au bout d'un moment il y a eu comme une espèce de boom dans l'industrie, bien entendu, il y a eu plein de copies québécoises, hein. Mais tu sais, ça c'était une question de timing. Et après, moi, j'ai du mal à m'imaginer que. J'ai du mal à me dire que. Ouais, tu sais, en un an, il y a eu plein de marques sans alcool qui ont sorti plein de trucs, puis ils ont tous pris au moins 2-3 ans pour faire des recherches et développements. Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'il y a plus comme une opportunité que certains ont réussi à saisir ou non. Après, tu sais, si tu veux, dans le côté plus technique du liquide, il y a deux choses qui portent les saveurs dans un spiritueux ou dans un produit liquide, c'est le sucre et l'alcool. Donc, tu sais, dans un produit comme Seedlip, par exemple, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, à mon avis, tu vois, pour le développement, ça a dû quand même être quelque chose de chiadé, technique, enrobé d'une belle couche de marketing et de communication, avec un beau branding. Après, tu vois, il y a d'autres produits comme les produits que Patrice Plante a sortis récemment, là, Noah, super bon. Mais non, il n'y a pas de mais. Vraiment bon, bravo. Tu vois, les produits, selon moi, qui sont les plus réussis sont ceux qui contiennent quand même un petit peu de sucre, parce que, je veux dire, ça va t'aider à fond. Tu le bois comme ça, c'est délicieux, tu vois. Mais tu le rallonges avec du soda, c'est très bien. Et en plus, ça répond à l'offre du moment, apéritif, apéritivo. Tu sais, tu fais un vermouth sans alcool, un amaro sans alcool, un apéritivo sans alcool, c'est beaucoup plus facile que de faire un gin sans alcool et puis d'essayer de, tu sais, je veux dire, tu le goûtes, c'est un ersatz, il n'y a pas d'éthanol, t'as beau essayer, tu vois. Il y en a qui mettent des piments pour remplacer la brûlure du truc. Bon, j'ai mon avis là-dessus et je le donnerai pas, ce qui veut tout dire. Quoi.
Je ne donnerai pas. C'est trop fort. Tu ne l'as pas donné là.
Non, mais tu sais, non, mais moi surtout, c'est qu'à un moment donné, peut-être que ça va écorcher les oreilles de certains producteurs, je m'en fous complètement. C'est qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a une offre pour les consommateurs qui ne consomment pas d'alcool. Tu vois, que ça leur plaise ou non.
Oui.
Que ça leur plaise ou non. Et en fait, c'est une question de langage, c'est une question de socialiser. Les gens, ils veulent juste avoir un verre le même que leurs amis sur la photo, pas avoir l'air con avec un jus de pomme. Et c'est très bien comme ça. Et en fait, si t'es un restaurateur, si t'as un minimum de notion d'hospitalité et que t'es pas capable de comprendre ça parce que toi t'es un sommelier, t'es con, c'est tout. T'es con. Les gens ils viennent, c'est les gens qui passent en premier. C'est pas montrer tes skills de bartender, de sommelier ou de hôte. T'sais, les gens ils ont le droit d'avoir une offre alcool qualitative, vin qualitatif, bière qualitative, bouffe qualitative. Et s'ils boivent pas d'alcool, c'est pas ton problème. Il faut qu'ils aient une offre qualitative aussi. C'est ça l'hospitalité.
Ça ressemble un peu au mouvement végétalien, végétarien dans les restaurants, où pendant longtemps, les restaurateurs ont refusé de développer des produits pour accueillir cette clientèle qui ne voulait plus forcément manger de viande.
Mais c'est différent, parce que je pense que quand même, tu vois, je veux dire, ça ne prend pas un doctorat en cuisine pour faire un drink sans alcool. La différence, tu vois, c'est que je veux dire, aujourd'hui, tu veux manger du végétalien super bon, tu vas dans un resto végétalien et t'as un chef spécialisé où il y a toute une philosophie derrière. Tandis que, tu sais, la colonne vertébrale du bar, selon moi, c'est pas la gastronomie, c'est l'hospitalité. Tu veux que les gens se sentent bien. Oui. Donc, propose-leur une offre qui va pour tout le monde. C'est tout.
Je suis pas forcément d'accord, là. Moi, je pense que tu peux aller aussi dans des bars évidemment, avec des amis, mais comme tu vas au resto pour être avec tes amis, mais pour aussi pour bien boire et bien manger, découvrir des nouvelles saveurs dans ton verre ou dans ta boisson.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai travaillé au Beba un petit peu, tu vois. Mm. Genre le chef, c'est un génie là. Harry, il est incroyable, incroyable. Je veux dire, sa passion, lui, c'est la bouffe de grand-mère et le beurre. Peut-être qu'il est moins bon techniquement qu'un chef végétalien qui s'y est consacré avec une espèce de démarche, de philosophie et tout ça. Tu vois, à la différence, dans un bar, faire un cocktail sans alcool, c'est pas plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un côté technique. Si t'es bon en cocktail, tu sais faire des bons drinks sans alcool. Tu vois?
Je sais pas, parce que si tu sais pas. Je me fais un peu l'avocat du diable. Hein,
le barman spécialiste.
Si tu sais pas remplacer l'alcool et le sucre par quelque chose d'autre, parce que tu n'as jamais appris, parce que ce n'est pas dans ta culture, parce que ce n'est pas dans ton domaine de connaissances, tu vas avoir peur.
Oui, mais un bon barman, son boulot, c'est de connaître ses produits et de mélanger des liquides. Donc après, à partir du moment où tu sais mélanger...
Mais tu peux dire ça d'un cuisinier aussi, de dire un bon barman, un bon cuisinier, c'est de faire à manger. Quoi.
Ouais, mais c'est quand même moins technique de faire du... C'est quoi le mot? Ils disent de la mixologie. C'est moins technique de dire de faire du bar. Je veux dire, qu'est-ce que ça prend pour faire du bar? Ok, il faut que tu saches faire... Mettons, si tu veux être vraiment trendy, là, il faut que tu saches faire de la fermentation, gazéifier un petit peu, quelques techniques, faire du sirop. Je veux dire, ça, c'est genre le béaba pour un chef. Mm. Donc, c'est là où je veux te dire, c'est que l'offre d'un restaurant, elle va être souvent orientée autour de la cuisine du chef. Tu sais, si on parle d'un restaurant un peu plus haut de gamme, tandis que l'offre d'un bar, c'est plus la vibe du bar, quel style de cocktail on va faire. C'est pas une question, ah, ici, on boit... Tu sais, je veux dire, il y a personne qui va ouvrir un bar spécial sans alcool. Ils vont le faire, quoi. Tu vas avoir un article dans le journal, mais... Il n'y a pas d'offre, ça ne sert à rien. Tu vois, une boutique comme Apéro à Zéro, par exemple, c'est parfait. Parce que c'est une boutique où, props à elle d'ailleurs, j'adore, elle a une offre spéciale et il y a un bassin, il y a un marché où les gens ils se disent, ok, il y a cette boutique-là dans Hochelaga, où tu peux
Ontario,
aller
à côté de
Ontario, ouais. Il y a une super offre, la fille, elle est brillante, elle s'est accrochée, elle a fait son truc, trop bien. Mais dans un resto, en fait, tu veux une offre juste pour tout le monde. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui ne boivent pas. Propose une offre.
Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est intéressant de proposer des accords cocktails plats? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça a un sens ou pas? Parce que le cocktail a une identité trop unique par rapport à l'identité du plat.
Non, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Dans des events, tu sais, je l'ai fait au Mousseau, je l'ai fait à l'Auberge Saint-Mathieu avec les gars et avec Claudia Doyon. C'était incroyable. Le travail de monter, tu sais, en plus la manière dont on l'a fait avec l'Auberge Saint-Mathieu, on l'a vraiment geeké là. Tu sais, on a envoyé les drinks, on est allé, on a goûté les trucs.
De l'Auberge, c'est des... Ils sont sérieux. Hein.
Ah, c'est des fous.
Etienne.
J'adore. Ils sont jeunes en plus. Incroyable.
Ah,
que des bonnes choses à dire. Si vous voulez qu'on prenne 4 heures de plus... Mais
non, c'est en 4 heures, on a le temps d'y aller là-bas.
Tueurs,
on mange là-bas ce soir.
Ils sont fermés.
Non, mais tu sais, ils ont une aura. Tu sais, en plus, ils sont Bref, incroyable. En plus, la sauce avec Claudia, c'était top. Tu sais, Claudia et moi, on a deux manières de faire des cocktails complètement différentes. Et,
alors, tu peux nous expliquer ça, là c'est quoi de parce que tu dis justement, ça contredit un peu de ce que tu viens de dire.
Mais non, c'est que toi, tu catégorises alcool ou sans alcool. Moi, c'est non, tu fais un cocktail balancé ou un cocktail pas balancé, avec ou sans alcool, c'est la même chose. Après, y a des... il y a des individus comme Claudia en ce moment au Québec, puis d'ailleurs ça je suis très content d'en parler, qui sont en train d'installer une espèce de griffe québécoise, une identité québécoise dans une manière de faire des cocktails. Et ça, il y en a très peu. Et ça, pour moi, c'est eux là, qui doivent aller au laurier, tu vois. Parce que, parce que en fait, ils sont en train de créer quelque chose, ils sont en train de créer un style québécois en se faisant chier, en se disant que, ok, moi, ma priorité, c'est de partir des produits pour faire les meilleurs cocktails possibles.
Parce qu'elle, elle n'utilise pas de citron, elle n'utilise pas de...
C'est intense.
Elle n'utilise pas de citron dans un cocktail.
Là, ça, c'est ce qui nous sépare, parce que moi, je suis un peu... tu sais, moi, ma philosophie, c'est comment dire... C'est moi, tant que tu ne m'auras pas prouvé que tu auras trouvé un ingrédient québécois plus efficace que du jus de lime, je vais prendre du jus de lime, désolé, mais moi, ce qui m'importe, c'est le goût. Mais... Je pense ça depuis longtemps, et puis ça fait longtemps qu'on s'ostine un petit peu gentiment sur ça. Mais elle tient son bout et elle a réussi, selon moi, à installer quelque chose, à s'installer elle. Elle a une patte qui est vraiment particulière, puis je pense que c'est pour ça que tout le monde la respecte. Et elle fait des cocktails québécois, puis elle s'y tient vraiment. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on lui propose une job à 100 000 en lui disant « tu vas faire des drinks avec de la tequila et du jus de lime », elle va dire non. Et en fait, il y a peu de bartenders. Tu sais, je veux dire, le milieu du bar, il est, j'allais pas dire pas gangréné, parce que ça, c'est péjoratif, mais je veux dire, il est conduit par les marques. Tu vois, la différence, comme je te le disais tantôt, c'est, je veux dire, c'est, toi, tu vois un Negroni, moi, je vois trois marques, trois produits, trois écosystèmes, des reps, des trucs, des machins, avec plein de choses.
Alors, tu vois quoi ? Déconstruis-le-nous, s'il te plaît.
Bah, tu sais, c'est
qu'on soit bien clair.
Bah, tu sais, moi, je fais de la communication avec les cocktails. Donc, moi, si tu me dis... ok, on va faire la promotion d'un Negroni, on a besoin d'aide pour nous payer de la promo, ben, je vais appeler Campari, je vais appeler la marque de Vermouth, je vais appeler la marque de Gin. Alors, tu vois, donc c'est si moi, si j'arrive dans un bar et que je regarde le back bar, je suis capable de te dire avec qui il travaille, c'est quoi les deals, c'est quoi les ententes, c'est quoi les trucs. Mais ça, c'est facile.
Tu as des retours sur les achats que tu fais.
Oui, mais
en tout cas, c'est les grosses compagnies qui travaillent comme ça.
Non, ça c'est très, ça faut pas le dire, hein. C'est officieux, dire. C'est officieux. Mais, bon, mais oui, ça marche comme ça.
C'est tabou dans le.
Ah ouais.
C'est qu'en fait, c'est des ententes.
Ah.
C'est des ententes, on s'entend. C'est amical.
De...
mais non, mais en même temps, c'est des super coups de pouce, parce que je veux dire, t'as deux manières de voir les choses. T'as un bar, c'est une business. Un bar, c'est une PME. Je le dis, ça c'était quelque chose qui avait été matraqué pendant la pandémie. On fait affaire avec des distributeurs, on a des ententes, on a des deals, pourquoi j'irai avec lui plutôt qu'avec lui. Et en fait, quand tu parles aux consommateurs, tu leur dis, bon ben regardez, mon gin il est très bon. Quand tu parles avec des professionnels, on se dit pas, ouais le gin il est bon, on va faire une dégustation. Tu le fais parce qu'il faut que tu y mettes la forme. Mais à the end of the day, ce qui compte c'est genre, ok, combien je vais payer mon truc, combien je vais faire de cost, combien je vais faire de marge. C'est comme ça que ça marche, c'est une business. Et en fait, c'est quelque chose qui est moins présent dans les restaurants, parce que tu manipules des ingrédients, certes t'as des distributeurs. Mais nous, pour chaque ingrédient alcoolisé, derrière, tu fais vivre des entreprises, tu fais rayonner des entreprises. Et en fait, là où le simple barman se dit « Ah, moi, je suis un distributeur de boissons », mais non, pas du tout. Tu fais du contenu externe pour la marque, tu fais rayonner la marque, tu es un ambassadeur de la marque. Moindrement que tu te fais envoyer un t-shirt, tu vas le prendre en photo, tu vas le mettre sur Instagram. Encore mieux, parce que c'est du contenu organique. Donc en fait, tout ce langage des marques qui est implanté dans le milieu du bar, il est omniprésent. Et Claudia, elle a dit non. Elle, moi, je vais aller cueillir des ingrédients et je vais faire des cocktails gastronomiques. Et elle est dirigée par cette philosophie-là. Et moi, ça, je trouve ça... Je respecte ça plus que tout au monde. Et il y a peu de bartenders. Je te dirais qu'il y en a peut-être une dizaine installés. Il y a sûrement plein de jeunes qui sont en train de s'inspirer de Claudia et de Maximilien et de Maximilien Jean et de tous ces gens qui poussent
le Clochroom.
Ouais, qui poussent la qualité. Ouais, Clochroom, mais Maximilien, c'est autre chose que, tu sais, Maximilien travaille au Clochroom en ce moment, mais Maximilien était Maximilien avant d'être au Clochroom. Puis c'est un très très bon ingrédientiste, un mec avec un attachement fort à la philosophie qu'il y a derrière le bar. Tu vois, il care vraiment sur beaucoup de détails, puis il a une sensibilité vraiment accrue sur beaucoup de choses.
Tu vois qu'il cool. y a quand même un...
Et on va au concert du Wu-Tang ensemble, fait que c'est parfait.
Mais tu vois qu'il y a quand même une philosophie, qu'il peut y avoir des bartenders ou des mixologues.
C'est vraiment naissant.
Avec une philosophie particulière, un peu à la manière de chef de cuisine.
Oui, mais je te dirais qu'en ce moment, ça se greffe très bien dans un restaurant qui est l'idée par un chef qui va faire rayonner ce truc-là. Après, si demain, t'ouvres le bar 100% québécois et tout, etc., je suis pas sûr que ce soit pérenne.
De toute façon, elle travaille dans un hôtel, Claudia.
Ouais.
Donc peut-être que c'est elle est aidée par l'hôtel pour faire rayonner son...
Oui, c'est clairement la direction. Elle serait pas rentrée sans ces termes-là. Mais c'est juste que ça prend un petit peu de temps pour se mettre en place. Mais comme je te dis, tu sais, c'est important de comprendre qu'en ce moment, l'attention comment dire, il y a vraiment une différence de philosophie entre certains bartenders qui ont vraiment une philosophie qui est un petit peu liée au terroir, si on peut dire, et d'autres qui est tout aussi respectable, en fait, hein, qui se disent, ok, ben en fait,
t'es là pour
c'est le tankery, c'est le classique. Non, mais c'est ça aussi, c'est qu'il y a plein de consommateurs qui disent, oh, ben là, pourquoi vous encouragez pas les produits québécois? C'est parce que les produits québécois, ça existe depuis 12 ans, tankery, ça existe depuis 200 ans, tu crois que je respecte qui? Donc, il y a cette chose-là aussi qu'on peut se mettre en tête. Moi, je veux dire, quand le Ungava s'est sorti, j'entendais des consommateurs québécois qui me disaient, Beefeater, c'est de la merde, t'es genre... C'est parce que c'est du gin, quoi. C'est du Beefeater, c'est du gin. Puis c'est Coca-Cola, quoi. Tu vois. Donc c'est. Mais là encore, tu vois, c'est des trucs de. C'est des philosophies de marque, de branding, de choses comme ça. Puis en fait, les spiritueux québécois, les produits québécois, c'est un marché comme un autre. Il y a des trucs très bons, il y a des trucs très mauvais, il y a des trucs commerciaux, il y a des trucs fluo.
Alors aujourd'hui, on peut voir qu'il y a il y a eu beaucoup de distilleries qui ont ouvert. Il y en a quand même pas mal qui... Il y a un petit retour de bâton, là, en ce moment, dans l'industrie.
Ouais.
Ça change un peu l'industrie québécoise du gin et des alcools.
Ouais. Ouais, oui. Malheureusement, on est dans un... C'est ça, je pense que ça, on est plus dans la... On est dans la fin du golden era. Le marché est saturé. On a un distributeur monopolistique. Ce qui est bon pour certains trucs, peut-être mauvais pour d'autres, c'est compliqué.
Il y a l'inflation qui fait que les petites entreprises qui sont obligées de vendre plus cher, sont moins favorisées.
Mm-hmm. Ouais, puis aussi, je pense qu'il y a pas un lien nécessairement entre le fait que tout le monde, c'est panier bleu, tout le monde veut encourager Québécois, mais à the end of the day, tu sais, je veux dire, tu as des écarts de 8, 9, 10 dollars sur certains produits. Puis t'es comme, ok, bah, t'sais, la bouteille de gin québécois, ça va être un cadeau peut-être. Tandis que t'sais, je vais faire un party, je vais mettre 3 bouteilles de gin dans un bol à punch, bah, tu vas prendre une marque internationale parce que c'est moins cher. T'sais, c'est normal aussi. Mais mon opinion, perso, puis même pas professionnel, c'est-à-dire que peut-être je peux me tromper, mais selon moi, la tendance est dead. C'est-à-dire que...
Ça va sélectionner grave, hein.
Ouais,
donc là, malheureusement,
c'est en fait ce que
sociétés secrètes qui vont tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont un placement incroyable.
Ouais, puis ouais, eux, c'est mais trop bien, tant mieux. En fait, le problème, tu vois, c'est ce que je peux dire. Ce que je peux dire, c'est je prends des idées, tu vois que
sur mon
body language que je non, mais ça, j'ai rien contre ça. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, si tu te lèves tous les matins en te disant ça marche pas, laisse tomber, fais un autre job, ça changera pas. Je te dis direct, il n'y a personne qui va privatiser la SAQ, ça ne changera pas. Mais par contre...
Tu crois vraiment? Ça va être dur. Hein.
Aucune chance.
Ça va être dur.
Mais
il ne faut pas privatiser. Alors, on reviendra là-dessus plus tard.
Franchement.
On ne parlera pas là-dessus.
Je ne parlerai pas là-dessus parce que c'est... Non, mais c'est pas... C'est que ça ne sert à rien. On peut en parler pendant 4 heures. Je pense que dans ma vie, j'ai dû perdre 6 mois à parler de ça.
Si on je vais parler dans le podcast. Nous, on en parlera un jour.
C'est ça les règles du jeu, c'est tout. C'est ça les règles du jeu. Donc, si après... T'as bâti ton entreprise en te disant que les choses allaient changer, t'as fait une erreur. Si tu passes tout ton temps à regarder ceux qui marchent à la place de mettre de l'énergie positive dans ta compagnie, c'est pareil, c'est ton erreur.
Aussi.
Et aussi, les règles du jeu disent que le nerf de la guerre, c'est le marketing, la vente, la distribution. Okay, donc aujourd'hui, on est dans un schéma où la qualité de ton produit n'est pas nécessairement liée au succès de ton produit auprès des consommateurs. Donc, la SAQ n'a rien à voir là-dedans.
Non.
tu vois. Donc en gros, ce que je peux dire, moi ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre la qualité et le succès de ta compagnie. Et en gros, au plus tu vas garder du cash pour te faire de la pub, du marketing, du branding et de la communication, au moins tu vas en mettre dans la qualité de ton produit en ce moment, au plus tu as de chance, selon moi. Mais
non, mais de toute façon, ça a toujours été comme ça dans tous les domaines.
Mais c'est un marché comme un autre. Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura toujours McDo et le Mousseau. Ça fait trois fois que je name drop le Mousseau. Ouais.
J'espère que tu vas avoir des retours.
J'adore ce resto. Oh, non, t'inquiète. J'adore le resto. C'est vraiment bon. Et Antonin est vraiment cool. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, le seul problème avec ça, c'est qu'un modèle comme la société secrète, tu vois,
ils ont tout compris, c'est des batchs, ils ont déjà tout vendu.
Mais ça reste une exception. Ils ont le bon spot, le bon truc, tant mieux pour eux, tu vois. Mais après, il y a d'autres distilleries qui voulaient être des destinations touristiques, agro-touristiques, qui vont disparaître. Puis tous ces gens-là, en 2017, qui étaient bien fiers d'avoir un gin québécois, nanana, etc. Dans 20 ans, si tu crois qu'au Québec, il va rester des distilleries comme au Kentucky ou en Écosse, mais oublie ça. T'sais. Et en fait, il y a un enjeu aussi touristique derrière tout ça. Donc, c'est ce qui est dommage. Et c'est moi, tu vois, c'est pour ça que je veux travailler avec des distilleries comme Hubald. C'est pour ça que j'encourage des compagnies qui, selon moi, ont quelque chose à apporter. Il y a la qualité, il y a une transparence dans la production qui est là. Enfin, tu vois, tu vas à la distillerie Hubald, tu as 4 km de champ avant, tu peux pas te tromper, quoi. Tu sais, les gens, ils savent pas où c'est Saint-Hubald parce que, Chris, il y a que les champs. c'est un sujet complexe. Selon moi, le marché, il est saturé, malheureusement. Je sais pas ce que l'avenir va nous dire, sauf qu'en ce moment, je pense que c'est pas la meilleure période. Et ce qui est dommage, c'est que selon moi, aujourd'hui, si tu as une bonne idée, un bon produit, un bon branding, un bon cerveau, tu n'es pas sûr d'y arriver.
Mais non.
C'est ça.
Mais ça a toujours été ça, encore une fois. C'est... Dans beaucoup de domaines, c'est comme ça.
C'est ça. Mais après,
à un moment donné, il y a le momentum aussi.
Ah ben ça, c'est certain. Tu vois, tu vois des compagnies comme Romeo qui ont un bon momentum, bonne maîtrise du marché, bonne maîtrise de la com, bonne maîtrise du marketing. C'était le bon moment, au bon endroit. Parfait, bravo, quoi. T'as gagné. C'est parfait. Puis il y a de la place pour tout le monde dans le marché. Tant que, tu vois, moi, ce que j'aime avec... Non, mais moi, ce que j'aime avec Romeo, c'est que Romeo, ils mentent pas. Ouais. Pas de bullshit. Ils font leur com axé art, tu vois, trucs colorés, super tendance. Ils travaillent avec du monde actuel. C'est des bons gars. C'est moi, je l'ai, tu sais, c'est une joke, mais moi, je l'ai vu, Nicolas Duvernois, passer le balai en vrai. Là. C'est parfait, vous gagnez, les gars, c'est trop bien. Tant mieux pour vous, parce que je veux dire, il y a plein de petits artisans qui sont là dans leur alambic en disant Roméo, mais c'est comme, mais je veux dire, c'est le player qui gagne la game, puis tant mieux. Kilomètre 12, c'est la distillerie du Fjord, parfait, ils sont ultra sympathiques. Tous leurs ingrédients, c'est des ingrédients frais, cueillis. De voir que Kilomètre 12 bat Hendrix en SAQ, putain, mais c'est trop bien, quoi.
Ouais,
c'est des vrais gentils qui gagnent.
Ah, c'est super ça. Ouais. C'est David contre Goliath là.
Bah, c'est momentum. Ouais. C'est eux, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont réussi à gagner leur territoire, puis après ils ont étendu en dehors du Québec. Ça, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'au final, quand tu ouvres ta distillerie, après ça, tu vas gagner le cœur de tous les gens qui sont autour, qui vont remplacer leurs bouteilles de tel ou tel produit international en disant, ok, moi maintenant, à chaque fois que je vais à la SAC, je m'achète une bouteille de Kilomètre 12 parce que c'est les gars du coin ou c'est le fils de mon chum ou whatever. Je veux dire, c'est les gens les plus faciles à gagner. Et après, ils ont diffusé à coup de gentillesse. Incroyable.
Ah ouais, c'est incroyable.
Ah ouais, eux, ils sont tellement gentils, là, c'est fou. Moi, ils m'ont hébergé l'été dernier avec mes parents.
Ils sont où ?
Saguenay.
Saguenay ?
Ouais. Nice. Saguenay, mais écoute.
Belle histoire.
Ouais.
Alors, c'est quoi, dernière question, c'est quoi, à ton avis, les prochaines tendances ?
Bonne chance.
Le pop-up.
Ouais, tout à fait.
Tiens, on va essayer d'en faire plusieurs, c'est ça. Pop-up, n'empêche, tu rigoles, mais bien exécuté. Là, on a la chance. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir un playground trop bien avec Alambica. Puis Jean-Seb, il me supporte. Puis c'est ça, c'est le mot. Il supporte mon humour et mes caprices. Mais tu sais, on a une vision business qui fait du sens quand même. Mais... selon moi, les prochaines tendances, il y a eu beaucoup la tequila, mezcal, mais selon moi, ça va être beaucoup l'apéritif qui va mais tu vois,
tu dis ça parce que tu es à un âge où on prend plus l'apéritif que le digestif.
Non. En ce moment, tu vois, le jeune staff crinqué à Montréal, ils font barbello, apéritif. Tu vois, back to the roots un petit peu, sans revenir nécessairement au truc speakeasy années 20. Parce qu'en fait, ça va de pair avec la tendance un peu low ABV. Tu vois, tu fais un cocktail un peu style americano, tu vois, vermouth, Campari avec un peu de soda. Ben, y a pas de spiritueux, c'est des cocktails légers, ça se boit un petit peu comme des verres de vin. Tu peux en prendre un peu plus. Ça surfe un petit peu sur la tendance du sans-alcool. La tendance du sans-alcool continue encore à croître. La preuve à notre première rencontre. Donc, en fait, je pense qu'il y a un langage il y a des notions de responsabilité dans le service qui sont inhérentes en fait avec la nouvelle génération. Ça veut dire que tu sais, les nouveaux bartenders là, ils se mettent pas des brosses comme nous à l'époque. Tu sais, c'est les gars qui ont 26, 27 en ce moment. C'est très rare qu'ils se déglinguent à coups de shot de Jameson comme nous on faisait il y a 10 ans. Et donc je pense que c'est un mélange entre l'apéritif qui va peut-être remplacer, on dirait que c'est rigolo, mais on dirait que l'apéritif remplace le 5 à 7 là. C'est, tu vois, le 5 à 7 c'est une notion un peu plus américaine, et après souvent les tendances qui arrivent des bars haut de gamme comme ça découlent beaucoup sur les consommateurs. Mais tu vois, les consommateurs ils connaissent déjà l'apérol spritz évidemment, mais dès que tu commences à leur parler de Campari et de Chinar, et tu leur dis mais tu sais c'est la même compagnie hein. Alors ils sont comme ah ouais, parce que tu sais, ils sont pas nécessairement au courant, et je pense c'est ça.
Chinar, c'est une l'artichaut, hein.
Ouais, exact. C'est un amaro à base d'artichaut, super bon, tu sais, très très costaud. C'est comme le grand papa du Campari. Donc c'est ça la nouvelle tendance selon moi, c'est le sans alcool va continuer à croître avec de plus en plus de produits de qualité, et ça va s'installer de plus en plus dans les habitudes des consommateurs. Parce que tu sais, ça prend quand même du temps là, entre le moment où tu vois que c'est dans les barreaux de gamme versus ça s'installe vraiment en dehors de Montréal. Aujourd'hui, tu vas dans des établissements à Québec, puis etc. L'offre cocktail est top, l'offre sans alcool top. Tu as une offre apéritif ultra qualitative aussi. Donc, je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on s'enligne.
Pour finir, tu avais dit la dernière question. On a cité pas mal de bars à Montréal. Mm-hmm. Québec, justement, tu peux en citer quelques-uns qui valent le détour selon toi?
Alors,
tes préférés?
Jacques, trop bon. Le bar du château, ça a toujours été grosse qualité. Ono Izakaya, mais ça, c'est, je veux dire, je le name drop toujours en premier parce que Julien, il fait un boulot incroyable. Puis ils ont réussi à apporter à Québec une espèce de cuisine d'une qualité, surtout pour quelque chose qui vient d'ailleurs, avec une intelligence et une qualité franchement incroyable. J'y mangerai tous les jours. Ce serait dommage pour mon portefeuille, mais non, j'y mangerai tous les jours. Et tu sais, l'offre est incroyable dans le sens où l'hospitalité est parfaite, la corrélation entre les cocktails, les bières, le vin, la bouffe, parfait. Enfin, après, il y a aussi le restaurant Légende où il y a Jean-François Laurence. Honnêtement, Jean-François Laurent, c'est un barman que je connais depuis longtemps. Je l'avais pas vu depuis un petit bout. Puis là, il s'était réorienté depuis qu'il est à Québec sur quelque chose de vraiment plus axé québécois, un petit peu avec la même philosophie que Claudia. Et j'ai vraiment été bluffé quand il m'a fait goûter ses derniers cocktails. Puis en plus, c'est parfait pour lui. Là, il est dans son bon spot. Donc, c'est origine et tout ça. C'est la même gang, là. Mais le groupe, là, en ce moment, qui lead, selon moi, le cocktail à Québec, c'est vraiment la gang du Jacques... Le Julio Taqueria aussi, tu vois, ils ont cette espèce de groupe là, Tao Jacques, Julio Taqueria, très bon, très tight, très pro, super bien exécuté.
C'est quoi le meilleur groupe? Pas le meilleur groupe, mais celui qui a le plus d'influence sur la scène montréalaise.
Moi, dans ma vision de ceux qui sont vraiment influents, il y a le groupe Barocco, donc Atwater Cocktail Club, Milky Way. Bon délire avec Kate Bouchel qui est c'est la meilleure ambassadrice de ce groupe-là. Elle est reconnue mondialement. C'est bravo, franchement incroyable le travail qu'elle fait. Elle met tout son cœur, toute sa vie. C'est donc eux, ils donnent un gros lead. Puis en plus, ils ont une grosse emphase sur la formation. Ça veut dire, tu sais, ils ont des jeunes. Ça fait 6 ans qu'ils travaillent là. T'sais. Donc ils envoient du gros cocktail. Puis en plus de ça, ils font. Ils ont une signature là dans les cocktails. Tu sais, ces cocktails très visuels, très colorés, avec des garnishes, des verres un peu funky, mais ils ont aussi une belle manière de maîtriser le branding, la communication. Ils vont faire des pop-up à l'étranger, tu sais, ils ont le package complet. Franchement, ils font vraiment rayonner Montréal sur la scène internationale. Il y a le groupe du Cloakroom qui est donc Cloakroom, Dominion. Là, Andrew, il s'est associé avec Andrew Weebly, s'est associé avec plusieurs personnes dont des partenaires du Joe Beef pour réouvrir le numéro 9 là, qui va être dans le Centre Eaton. Ça, ça va être un truc de fou.
9e étage.
Ouais, ça, ça va être un truc de fou.
Bah, t'as vu les photos, t'as été déjà?
Ouais, mais c'est surtout que quand j'ai vu les. J'ai vu tous les trucs, j'ai été dans la confidence assez tôt. Puis quand j'ai vu le line-up de gens qui vont s'occuper de ça, j'étais genre, ok, ça va être tight. Puis c'est ça, Andrew, lui, je te dirais que c'est un gars, c'est un boulot plus discret, mais très, très, très geek, puis très qualitatif. Mais il arrive bien à apporter, il arrive à apporter une offre qui est adaptée pour chaque concept. Il fait ça vraiment bien. Sinon il y a le groupe du Cold Room. Donc Cold Room, Barbello, qui est lié à Bisou Bisou aussi. Eux aussi ils ont pris le lead sur pas mal de choses dans la communauté au Québec. La grosse force selon moi, c'est que de ce groupe là groupe Barocco aussi, c'est qu'une grosse partie des jeunes bartenders de la nouvelle génération là, qui vont un peu modeler ce que va être la prochaine génération de bartenders. Ils sont tous là. Puis tu sais, comme c'est ceux qui sortent là en ce moment, c'est ceux qui vont dans les pop-up, c'est ceux qui vont dans les masterclass, c'est les cibles des brands là en ce moment. Puis tu sais, je les adore, ils sont trop cool, c'est parfait. Et après, il y a un autre truc qui est aussi très très lié au cocktail et qui a une identité différente, c'est le groupe du Midway. Donc ça, c'est tu sais, le Midway, le bar sur Saint-Laurent. Donc ça, c'est Charles Landry, super gars. Ultra pro, trop gentil. Et en fait, ce que j'adore, moi, le Midway, c'est mon bar préféré à Montréal, c'est qu'en fait, l'offre de bière, chill, c'est un vrai bar où quoi que tu prennes, ça va être bon. Tu vois, c'est du cocktail sans flafla, super bien exécuté. C'est aussi, tu sais, et puis ça trahit pas non plus, là, le staff est là depuis des années, des années, des années. Donc, tu sais, en principe, tu rentres dans un bar, tu vois que les mecs sont là depuis 6 ans, 7 ans. C'est genre, ok, les gars, ils savent bosser, ils traitent bien leur monde. Donc ils ont ouvert le Marion récemment, là ils ont ouvert le Moqueur qui est plus un resto dans le quartier avec une orientation plus Louisiane, Nouvelle-Orléans. C'est les quatre groupes majeurs que je te dirais, si tu les mets tous dans un bus et que tu le fais exploser, il n'y a plus de bar à Montréal. Donc
il ne faut pas faire ça.
C'est ça, non, il ne faut pas faire ça.
C'est un secteur qu'on n'avait pas trop exploré depuis le début. On y va puisque on a Claudia bientôt qui va intervenir aussi.
On attendait que tu dises des trucs méchants pour elle pour repasser l'enregistrement.
Ah de toute façon, Claudia, c'est une de mes meilleures potes, donc il n'y avait aucune chance que j'ai du mal sur elle.
Bon, merci pour cette belle conversation. Merci à toi, auditeur, de nous avoir écoutés. Peut-être tu veux nous soutenir sur Patreon et peut-être tu veux nous suivre sur Instagram. Sinon, restez dans le jus. Ciao.
Ciao, ciao.